Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur cette libre antenne du samedi soir. Ce petit sas entre hier et demain, un espace dans lequel je vous attends et vous accueille avec plaisir. Je n'ai bien sûr pas la solution miracle à tous vos problèmes, vos soucis, vos souffrances, mais ce dont je suis certaine, c'est que si vous venez les partager, ils seront moins lourds à porter. Alors si le cœur vous en dit, rejoignez-moi pour me raconter votre journée, votre semaine, votre vie, vos joies et vos peines. Venez partager tout ce qui fait votre quotidien et voyons ensemble comment on peut faire, si besoin est, pour que tout aille mieux, pour redevenir positif et regarder dans la bonne direction. Parce qu'on va toujours vers ce qu'on regarde. Alors si vous avez envie de venir me parler ce soir, prenez votre téléphone, composez le 3921, Estelle et Théo attendent votre appel au standard. Ils vous accueilleront et vous guideront ensuite jusqu'à moi sous l'œil bienveillant de Simon qui réalise cette émission ce soir. Nous avons donc 2 heures à partager, mais vous savez, ça passe très vite, alors appelez-moi dès maintenant pour que nous puissions nous parler rapidement. Je vous rappelle aussi que comme chaque soir, vous pouvez réagir par SMS à ce qui se passe à l'antenne, apporter un soutien, une idée. 739-21, suivi du mot nuit et de votre message. Ou alors par mail aussi, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Voilà, j'ai parlé, vous m'avez écouté. Maintenant, c'est à vous de parler et à moi de vous écouter. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin sur Europe 1.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et vous êtes nombreux à me dire, j'ai souvent envie de vous appeler, mais je n'ose pas. Alors ma question du jour est la suivante. Pourquoi ? Pour quelle raison n'osez-vous pas appeler ? Qu'est-ce qui vous freine ? Pour que je vous comprenne mieux, répondez-moi par SMS 739-21, suivi du mot nuit et de votre réponse signée par votre prénom. A tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Mon premier appel ce soir est l'appel de Daniel. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Sabine.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Alors, dites-moi ce qui vous amène, Daniel.
Alors, j'ai un problème avec mon fils. Mon fils a 50 ans, moi j'en ai 72.
Oui.
Il vit en ce moment avec moi parce qu'il vient d'avoir un infarctus depuis 2 mois.
Oula, c'était la première alerte ?
C'est la première, oui.
Oui.
Bon, il se remet bien, mais il a eu un parcours très chaotique. En fait, il a perdu son père, il avait 11 ans.
Mmh.
Ensuite, il s'est marié. Il a eu une jeunesse, rien de spécial. Pas beaucoup de réussite en classe. Il a eu un nez cassé à l'école. Un prof qui lui a recassé le nez exprès.
Quoi ?
Oui. Un prof qui lui a tapé dessus exprès en disant « Tiens ton nez », alors qu'il avait déjà eu le nez cassé dans la même école.
C'est passé
depuis longtemps.
Oui, enfin bon.
Ensuite, il s'est marié.
Mm-hmm.
Il a divorcé 7 ans après. Et puis depuis son divorce, il s'est un peu rapproché de moi. Il a acheté une maison dans le même village que moi. Il travaille depuis toujours, d'ailleurs, il travaille depuis tout le temps. Et il a toujours été considéré un petit peu... il a toujours été seul. Parce que quand il était jeune, ses copains passaient les soirées ou leurs sorties, allaient boire un verre. Lui, ça n'intéressait pas. Lui, c'était la moto, les voitures, enfin bon. Donc, il s'est toujours trouvé un petit peu isolé. Au travail, il travaille de nuit. Mais il fait des nuits de 10 heures. Il finit le matin à 7 heures. Donc, il dort la journée, forcément.
Qu'est-ce qu'il fait comme métier ?
Il est veilleur de nuit.
Ah, d'accord.
Dans un centre informatique.
Ça n'aide pas à se faire des amis, ça, de travailler en horaire décalé. Hein.
Voilà. Et c'est peut-être bien un petit peu ce qui le stresse aussi. Et puis, depuis qu'il est tout seul, nous partons en vacances ensemble. Bon, ça pose aucun problème, hein. Et voilà qu'il y a, il y a une dizaine d'années, il a rencontré une fille à Paris, une Thaïlandaise. Ils se sont vus pendant Lui, étant divorcé, il a été très prudent. Ils ont attendu des années et des années. Il y a 2 ans, ils ont décidé de se marier. Et elle est brusquement décédée juste avant de se marier, en fait.
Oh là là, le pauvre.
Elle a eu un arrêt cardiaque. Bon. Donc ça, il ne s'en est pas remis. Et à ce moment-là, aucun soutien, mais moi j'en ai pas eu non plus quand j'ai perdu mon mari, aucun soutien de la famille. J'avais mes parents avant, c'était très bien. Depuis que j'ai plus mes parents, j'ai 2 frères, j'ai 2 neveux, on ne voit plus personne.
Ah.
Et ça, moi je pense que ça, alors moi je lui dis, mais les autres, on s'en fiche. Même si c'est la famille, on s'en fiche. C'est pas grave, ils sont comme ça, mais on les laisse. Quand ils auront des problèmes, ils se débrouilleront tout seuls aussi. Ils feront comme nous. Mais ça, alors ça, il n'arrive pas à l'encaisser, en fait.
Il est votre fils unique ?
Oui, oui, oui.
Oui, donc ça restera encore le cercle.
Voilà, ça restera encore, oui. Alors, il a des amis, par contre, par rapport à sa copine, là, il a des amis chinois, thaïlandais, qui on voyait souvent à Paris, et que maintenant, ils sont partis, ces gens-là. Mais, par exemple, le 1er janvier à minuit, il a le texto de tous ces gens-là qui lui souhaitent la bonne année à minuit pile, alors qu'ils ont un décalage de 8 heures chez eux. Ils sont repartis en Chine, ils sont repartis en Thaïlande, ils sont repartis dans leur pays.
Mais ils l'ont pas oublié.
Mais c'est un soutien énorme. Mmh. C'est des Asiatiques, et c'est vraiment pas la mentalité des Français. Mais alors, pas du tout. C'est des gens bon, sur qui on peut compter. C'est vraiment, on ne voit pas ça en France, en fait. En France, les gens sont jaloux, les gens sont... Je ne sais pas. Enfin bon, ça, il n'arrive pas à s'y faire. Hein. Et alors, bon, depuis cet infarctus, enfin bon, il a passé des tas d'examens, il n'a pas de diabète, pas de cholestérol, rien. C'est le stress qui lui a provoqué ça, surtout.
Son papa est mort de quoi ?
De la grippe.
Ah.
De la grippe saisonnière, hein, au mois de janvier. Et alors, son papa est mort un 12 janvier, et sa copine est morte un 12 janvier aussi.
Oui, j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il y a un sacré phénomène de répétition dans son histoire de vie.
Hein. Oui.
Des choses liées
oui.
au cœur, des choses à date qui reviennent.
Voilà, ouais. Voilà. C'est plein de coïncidences, en fait, dans plein de choses. Alors, par moment, bon, ben, il a fait un peu de dépression. Bon, alors, les psys, les sites de rencontres, tout ça, il a eu plein d'entendre parler. Mmh. Hein, il a trouvé des amis, quelques copines, mais bon, en fait, il leur fallait un compte en banque pour élever leurs enfants, puis c'est tout. Hein, c'est tout. Bon, voilà.
Alors, heureusement qu'il est prudent, alors.
Il est très prudent. Bon. Personne de très sérieux. Alors là, il avait trouvé, d'après lui, la fille idéale, mais c'est vrai que c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Enfin, c'était vraiment une fille exceptionnelle, quoi. Donc là, il se trouve seul et il souffre de ça, en fait. Et alors, avec ses horaires de travail, bon, forcément, même s'il y a des sites de rencontres, bon, on fait des choses, ben, c'est la journée.
Mais oui, c'est sûr. Ouais.
Et là, il est complètement décalé, c'est-à-dire qu'il vit la nuit. Il vit la nuit parce qu'il a l'habitude d'aller travailler à 9h. À 9h, il est en pleine forme le soir. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a connu votre émission, parce qu'il m'a dit, tiens, j'ai écouté sur Europe 1 une émission qui est bien. Et depuis, on écoute cette émission tous les soirs, puisque là, il est chez moi, et que donc, on écoute cette émission tous les soirs.
Bon, ça, c'est une bonne chose.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est compliqué pour lui de se faire une vie sociale, et notamment des rencontres amoureuses. Quoi.
Voilà.
Mais quand vous me disiez que c'est quand même quelqu'un de solitaire, ça ne m'étonne pas qu'il ait choisi ce genre de métier avec ces horaires-là.
Il n'a pas vraiment choisi.
Non, enfin quelque part.
Disons qu'il n'a pas eu le choix quand il a cherché du travail. Bon, ça s'est présenté comme ça. Il l'a pris comme ça au début. Et en fait, il ne s'est bien plus là-dedans.
Donc il n'a pas du tout envie de changer.
Non, pour l'instant, non.
Parce que même s'il est en relation ensuite avec une femme, ce n'est pas évident de vivre un quotidien quand on travaille toute la nuit comme ça.
Ah ben c'était le problème de sa femme qu'il a eu d'ailleurs. Hein.
Mais oui.
Ah, voulait sortir le soir, ben oui, le soir il travaillait.
On est en décalage complet, c'est vrai que ça aide pas non plus.
Voilà.
Mais bon, si lui c'est son style de vie qui lui convient et que
oui.
Ça.
Oui.
Voilà.
Et oui. Ma femme, moi je lui dis, t'es pas tout seul à travailler la nuit. Il y a certainement bien des gens qui sont comme toi, qui travaillent de nuit, qui vivent ça. Bon, lui il le vit bien, mais ils arrivent bien à connaître quelques personnes, je sais pas. Hein.
Bah, vous me dites que les sites de rencontres, il ne veut pas en entendre parler.
Ah ben, il a essayé, mais bon, non. Il ne veut plus en entendre parler.
Il ne veut plus.
Voilà. Oui. Il a essayé, mais bon, c'est pas très sérieux. Enfin, ça dépend. Hein, bon.
Et la journée, ça se passe comment pour lui ? Il se réveille vers quelle heure ?
Quand il travaille, il se couche à 8h le matin, donc il se lève à 3h, en principe.
Et ça lui laisse le temps de faire des choses l'après-midi, des activités ?
Pas grand-chose.
Pas grand-chose, c'est ça.
Pas grand-chose, hein.
Parce qu'il n'y a qu'au travers d'activités qu'il pourrait rencontrer des gens, évidemment.
Et oui, ben oui.
Peut-être du sport ou je ne sais pas, des choses.
Il avait essayé de faire du karaté à une époque, mais c'est pareil, c'était la journée, donc c'était la journée.
Et là, vous me dites qu'il vit chez vous encore ?
Voilà.
Et comment ça se fait, ça ?
Il a été malade, alors je préfère le garder, le garder là, quoi.
Oui, mais il est plus malade, là, maintenant ?
Il est encore en arrêt de travail. Pour un certain temps, puisque c'est au moins minimum 3... Ça fait 2 mois, simplement, qu'il a fait un infarctus juste avant Noël. Donc, il a au moins 3 mois d'arrêt de travail.
Mais il a un chez lui, quand même ?
Oui.
Ah, d'accord. Donc,
Il n'a même plus envie d'y aller, en fait. Il avait tout préparé, sa maison, tout. Il avait tout décoré. Donc, il a presque même plus envie d'y aller.
Depuis ce deuil, c'est ça que vous me dites ?
Oui, oui.
Et ça, c'était il y a combien de temps ?
Il y a 2 ans.
2 ans, et ça commence à être long, puisqu'il ne s'en remet pas du tout.
Voilà. Oui, ça fait 2 ans. Oui.
Mais ce que j'entends, moi, c'est qu'avec vous, ça se passe bien.
Oui.
Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de non-dit.
Il y a quelquefois un petit peu des tensions. Mais ce n'est pas grave du tout. Hein. Quand il s'énerve, c'est vrai que... Des fois... Mais enfin, il y a... Non, mais chez moi, ça se passe bien. Et puis, je suis plus tranquille de le savoir là, finalement, que de le savoir tout seul.
Alors, attention à ça. Vous savez que c'est une pente dangereuse.
Oui.
Parce que d'inconscient à inconscient, vous pouvez lui transmettre aussi l'idée que... Vous avez du mal à lâcher, à laisser partir.
Ah non. Enfin, je sais pas. Il est bien parti quand il s'est marié, sans problème. Hein. Non. Mais enfin, maintenant, j'appréhende de le savoir seul, en fait.
Et mais c'est peut-être cette peur-là que vous pouvez aussi lui communiquer, inconsciemment.
Oui. Parce que je ne sais vraiment pas quoi faire.
Cet infarctus, il est arrivé dans quelles conditions ?
Il est arrivé, ça a été brutal. Il était chez moi, il s'est levé, il a commencé à déjeuner et tout d'un coup, il s'est arrêté, il ne pouvait plus avaler.
D'accord, donc il était chez vous, parce que quand vous me dites j'ai peur de le laisser seul, j'avais l'impression que c'était arrivé à un moment donné où justement il était seul, mais ce n'est même pas le cas.
Même pas le cas, non, il était chez moi.
Donc ça n'a pas de rapport, il peut parfaitement être seul.
Non.
Et... Oui, d'accord.
Non.
Donc c'est pas. Qu'est-ce qui vous ennuie le plus dans cette situation aujourd'hui ?
Ce qui m'ennuie, c'est de le voir malheureux comme ça. Parce que c'est de le voir comme ça, malheureux. Il me dit, je suis tout seul, j'ai plus envie de vivre, ça sert plus à rien. J'ai plus, voilà. T'aurais dû me laisser. J'aurais pété à l'hôpital comme ça, ça aurait été fini. Voilà, j'aurais été rejoindre ma copine et puis c'est tout. Voilà. De temps en temps, il réagit comme ça.
Est-ce qu'il a toujours... Parce que là, dans ce que j'entends, il y a quelque chose de l'ordre de la dépression qui se met en place.
Oui.
Est-ce que c'est un terrain qu'il avait déjà avant ou c'est vraiment depuis ce décès de sa fiancée ?
Il l'a eu un peu avant. En fait, il l'a eu un petit peu quand il s'est marié, en fait. Quand il s'est marié, il a eu un problème après avoir fait un vaccin contre l'hépatite virale. À la suite de ce vaccin, il a eu des problèmes. Il craignait la chaleur, mais alors énormément la chaleur. Il transpirait à la moindre... il était vraiment très très mal. On a fait tous les magasins, tous les hôpitaux de France. On a été à Paris, on était à Saint-Étienne, on était partout. Et il y a un professeur à Paris, finalement, qui nous a dit, c'est les résultats du vaccin, en fait.
Ça pourrait être des effets secondaires indésirables de ce vaccin. Ouais.
De ce vaccin, exactement. Donc ça, il a eu ensuite, il a vu un psy, il a eu des antidépresseurs pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, il a dit, moi, je veux plus de ça. Donc il a réussi à se débarrasser de ce traitement, en fait.
Et oui, mais pas de la dépression, visiblement. C'est ça qui m'a mis dans ce que j'entends. Parce que...
Peut-être pas trop.
Le fait qu'il se renferme comme ça de plus en plus, c'est pas un bon signe.
Oui, mais quoi faire ? Lui, il voulait absolument plus prendre tous ses médicaments. D'ailleurs, depuis, il se trouve mieux. Il se trouve beaucoup mieux physiquement, disons.
Oui. Est-ce qu'au moins, parce que vous savez que pour le cerveau et pour la sérotonine qui est très importante dans la dépression, est-ce qu'il voit suffisamment de la lumière ? Parce que quand on travaille la nuit comme ça, c'est aussi un des problèmes, c'est qu'on effectivement on dort toute la journée, donc de fait, volet fermé,
oui.
Rideau fermé, et le cerveau manque énormément de lumière.
Mais ça, c'est possible.
Donc ça serait bien, c'est tout bête, mais pensez à lui acheter une lampe en luminothérapie.
Ah oui, ah oui.
Ce sont des séquences qu'on fait pendant 10, 15 ou 20 minutes par jour et qui aident vraiment beaucoup. Ça se fait en période d'hiver quand les gens sont un peu dépressifs parce qu'il n'y a pas assez de soleil, mais lui, malheureusement, ce n'est pas une question de saison, c'est qu'il ne voit pas assez la lumière. Quoi. Ça peut jouer aussi.
Voilà.
Ça peut jouer aussi.
Voilà. En plus, en ce moment, avec le couvre-feu à 6h, à 18h, vous voyez...
C'est vrai que ça va être clair, ouais.
Il sort, il met le réveil le matin pour pouvoir prendre le temps de faire sa toilette et de sortir. Parce que s'il faut être rentré à 18h, c'est pas possible en se levant à 16h.
C'est vrai que pour lui, c'est encore pire. Daniel, vous restez avec moi, on marque une petite pause et je vous récupère tout de suite. Merci.
Oui, oui.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Daniel.
Oui.
Oui, cette histoire de lumière, c'est une petite chose, mais l'air de rien, c'est une petite chose qui a beaucoup d'importance quand on est un petit peu tristoune comme ça. Alors ça va pas régler une dépression, évidemment, mais ça aide quand même beaucoup.
Oui.
L'air et la lumière, notre cerveau en a besoin terriblement dans des périodes comme ça, et on a tendance à l'oublier, beaucoup trop.
Oui, oui.
Donc déjà, c'est quelque chose que vous pourriez faire avec... lui offrir ou lui conseiller de faire ça.
Oui, oui, mais c'est peu de choses. Hein.
L'oxygène, c'est effectivement aller marcher, aller respirer là où il y a de la verdure, des arbres.
Oui, on le fait aussi.
Ça, c'est important. Oui. Et à ce moment-là, sur un plan plus psychologique, est-ce que ce petit garçon qui a perdu son papa à l'époque, c'est quelque chose qui a été digéré, ça ?
Pense que non.
Mais oui.
Je pense que non. Il s'est toujours senti différent. Il s'est toujours senti différent juste après. Hein. Il ne pouvait plus dire « mon papa fait ci, mon papa fait ça ». Ça lui a manqué beaucoup, je pense. Hein.
Est-ce que vous l'avez senti changer après ce départ, ce décès ?
Changer, c'est surtout le changement autour de nous, en fait. Mm. Le changement, personne ne l'a soutenu.
Mais ça a dû forcément l'impacter beaucoup, ça.
Voilà. Ouais. Il a des cousins, mais qui se fichent complètement de ce qu'on devient. Il a des cousins... Personne ne demande de ses nouvelles. Déjà, on l'a un petit peu jalousé quand il a trouvé du travail parce qu'il était fonctionnaire. Et alors hein? Bon, donc déjà, il y a eu... Je pense que c'est de la jalousie mal placée. Je ne sais pas. Enfin bon, c'est des familles. Bon, il n'y a pas que chez nous. Hein, je vois bien. Mais je trouve ça dommage quand même.
Alors, la première urgence, c'est de s'éloigner des gens toxiques. Hein, surtout quand on ne voit pas très bien.
Exactement. Mais c'est ce que je lui dis.
Ça, c'est essentiel.
C'est ce que je lui dis. C'est ce que j'ai fait moi-même, d'ailleurs. Mmh. Avec ma belle famille, et c'est ce que je lui dis. Mais bon, je pense que ça le marque quand même, ça. Parce que lui, il est très à l'écoute des autres, en fait.
Ce qui est très bien.
Il n'y a pas longtemps, il a téléphoné, justement pour votre émission, une dame qui cherchait une dame qui avait sa maman, je crois, qui avait une maladie d'Alzheimer, ou je ne sais plus, qui était en région parisienne, qui voulait connaître un neurologue. Bon, lui, il se trouve qu'il en connaissait un par l'intermédiaire de ses amis. Il a téléphoné pour donner son adresse. Et cette dame lui a retéléphoné après, pour le remercier.
Bon, c'est gentil, c'est qu'il n'est pas si fermé que ça, finalement.
Ah non. Et non. Il rendra bien service, comme ça, aux autres. Mais, en fait, personne... personne ne lui rend service à lui, quoi, voilà. Et ça, il en souffre.
Et vous expliquez ça comment ? Que tout le monde, à ce moment-là, lui tourne le dos ?
C'est pas qu'on lui tourne le dos, c'est des gens... la famille, c'est des gens... je vous dis, un genre de jalousie. Un genre de jalousie, au départ. Ses cousins étaient jaloux, ben, ses copains, c'est pareil, ses copains, ils ont des problèmes avec les mômes, les femmes, et ben lui, il n'y en a pas, donc voilà, on le jalouse. Bon.
Oui, peut-être, oui. Je ne sais pas. Ça paraît bizarre de jalouser quelqu'un qui n'a ni femme ni enfant, justement.
Mais c'est ça,
Il n'y a rien à jalouser là-dedans.
Ah ben non.
Bon, quoi qu'il en soit, lui, il faut vraiment qu'il se préserve et qu'il s'éloigne des gens qui sont pas capables de lui faire du bien.
Exactement, mais c'est ce que je lui dis. Mais c'est dur à... Enfin, je ne sais pas.
Mais surtout, là, si j'entends que ce deuil du papa n'a pas été fait, et c'est un deuil qui a probablement été réactivé par la souffrance de l'autre deuil...
Oui. Oui.
C'est toujours comme ça, quand on perd quelqu'un de cher une deuxième fois, ça réactive la première perte.
Exactement.
Et c'est peut-être là qu'il faut aller l'aider.
Oui, oui.
Est-ce que vous arrivez à en parler avec lui ?
Oui, on en parle, oui.
Il n'y a pas de sujet tabou à la maison?
Ah non, pas du tout.
Bon.
Ah non, pas du tout. Non.
Et comment il est quand il parle de son père ou de son ex-fiancé? Est-ce qu'il arrive à en parler sereinement ou est-ce qu'il est un peu submergé par ses émotions?
Non, on en parle sereinement. On en parle sereinement. Il me dit toujours ce qu'il faisait avec elle. Parce qu'il se retrouvait beaucoup à l'hôtel. Elle venait en vacances ici. Lui prenait des vacances aussi. Il se retrouvait aux quatre coins de la France, quoi. Donc, on en parle même encore. Oui, il a des très bons souvenirs. Donc, on en parle gentiment, voilà.
Et concernant son père, qu'est-ce qui vous fait dire que le deuil n'est pas fait, alors?
Ah ben, je sais pas, mais j'ai bien l'impression, je sais pas pourquoi. Maintenant, il est peut-être fait, mais quand même, je sais pas.
Et pour vous, est-ce qu'il est fait ce deuil-là?
Oui. Oui, j'arrive à en parler maintenant, on met des années. On met des années pour en parler sans trop d'émotion, quoi.
Mmh.
On met des années.
Et comment était votre vie après cette perte?
Ben, la mienne, écoutez, moi je travaillais, donc j'ai passé sur plein de choses, en fait. Hein. J'ai continué à travailler, j'ai fait ce que j'ai pu pour lui, quoi, voilà.
Mmh.
Puisqu'il était tout seul. Bon, j'avais encore mes beaux-parents à l'époque. On a commencé. Mais même avant, quand mon mari était là, avec mes beaux-parents, on n'était pas très proches. Et en fait, on s'est perdu de vue après. On s'est perdu de vue complètement. Hein, parce que mes beaux-parents, c'était des gens. Mon beau-père était gentil, mais ma belle-mère, c'était quelqu'un de toxique, comme vous dites. Hein. Mmh. Ça, c'est sûr. Hein.
Est-ce que vous avez eu un autre compagnon après?
Non. Non.
Pourquoi?
Non.
Pour quelle raison?
Parce que j'ai pas trouvé personne d'idéal, en fait. Les quelques personnes que j'ai rencontrées, je gâtais trop mon fils. Bon, j'étais désolée, mais il fallait quand même que je m'occupe de mon fils avant de m'occuper de quelqu'un d'autre. Donc, non, j'ai trouvé personne. Mais bon, ça n'a pas été un problème pour moi, en fait, hein.
Et vous avez des amis, des activités?
Des activités, très peu. Mais enfin bon, j'ai une maison, j'ai un jardin. Je m'occupe, je suis en retraite maintenant. Non, j'ai pas de problème de ce côté-là.
Non, je ne s'agit pas du tout de pointer des problèmes. Il s'agit de réfléchir à un mode de fonctionnement qui est un peu aussi en boucle intérieure.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup d'ouverture non plus vers l'extérieur.
Pas trop.
Et les chiens ne font pas des chats.
Voilà. Oui. Non. Mais oui. C'est vrai. C'est vrai.
Et finalement, quelque part, vous êtes il est en miroir avec vous et vous êtes en miroir avec lui.
Et c'est possible.
Et c'est peut-être là qu'il va falloir essayer de lui donner un autre schéma de fonctionnement.
Ben oui, mais comment faire? C'est ça le problème, hein? Comment faire?
Peut-être soit vous, en vous ouvrant peut-être aussi à des amis, à d'autres choses à l'extérieur, et pas simplement à votre maison et votre jardin.
Oui.
Si ça peut vous faire du bien, évidemment, ça lui fera du bien à lui aussi de voir que vous avez cette dynamique-là, cette énergie-là.
Oui.
C'est une énergie d'ouverture et pas de fermeture.
Oui.
Et puis en ne le gardant pas trop longtemps à la maison, quand il va aller mieux là maintenant, qu'il prenne son élan.
Ah oui, non, mais bon, oui. Mais de toute façon, il part aussi tout seul, hein. Il a été à Paris il n'y a pas longtemps, il est allé à l'hôtel tout seul. Bon, moi, il part un petit peu quand même tout seul. Hein, oui.
J'espère bien 50 ans quand même.
Oui, justement, oui. Si, mais
parce que finalement, je me rends compte au fur et à mesure de notre conversation que quand vous parlez de lui, c'est un peu comme si vous parliez d'un garçon qui est très jeune encore. D'un homme qui a 50 ans. Quoi.
Ah bon, peut-être.
Hein. C'est votre côté maman poule probablement.
C'est possible, oui. C'est possible, ben oui.
Mais le poussin, il a grandi, hein, je crois.
Oui. Ben oui.
Pourquoi est-ce que c'est pas lui d'ailleurs qui m'a appelé ce soir?
Parce que il a pas osé, hein, comme vous l'avez dit dans votre début d'émission, là, il n'osait pas. Il a pas osé. Et il n'a pas osé. Puis moi, je lui dis, écoute, cette émission, ben, c'est tellement bien. Pourquoi tu n'appellerais pas? Mais ben, il n'a pas vraiment osé.
Et s'il avait osé, vous pensez qu'il m'aurait dit quoi?
Comment?
S'il avait osé m'appeler, il m'aurait dit quoi?
Je ne sais pas. La même chose que moi, je pense. La même chose. Qu'il est seul et qu'il se sent trop seul. Voilà. C'est ça son problème. Il se sent trop seul.
Est-ce qu'il aurait aimé qu'on lance une demande sur l'antenne ce soir, qu'on dise dans quelle région il est et s'il y a des femmes qui sont intéressées, qu'elles puissent nous laisser leurs coordonnées pour lui?
Oui. Ah ben oui, je pense que oui. Hein. Oui, oui. Oui. Ah oui, oui, il n'y a pas de problème.
Hein. Alors, dans quelle région est-il?
Le Puy-de-Dôme.
Puy-de-Dôme, est-ce qu'on peut avoir son prénom? Ça sera quand même plus facile pour
oui,
lui.
Oui, Christophe.
C'est Christophe, d'accord. Christophe oui. Dans le Puy-de-Dôme, il a une cinquantaine d'années, vous m'avez dit, 50 ans.
Oui, oui.
Donc j'imagine qu'il serait intéressé par des femmes qui ont dans ces eaux-là, entre 40 et 50.
Voilà, oui, oui, bien sûr.
Quelles sont ses qualités? Parce qu'il faut qu'on donne envie aussi aux femmes d'appeler.
Oui, ses qualités, alors il est très, comment dire, presque maniaque, hein, très très propre, il range tout, il est très organisé. Mmh. Voilà, il est très organisé, pour ça, il n'aime pas du tout les gens négligés, les gens qui laissent traîner tout dans la maison. Lui, il est très organisé, il range tout. Voilà.
Est-ce qu'il a bon caractère?
Il n'a pas mauvais caractère, non, non, non. Non, non, il est... oui, oui.
Il est gentil?
Il est gentil, très.
Bon, bah écoutez, s'il y a des femmes qui sont dans cette région, qui ont entre 40 et 50 ans et qui sont sincères et honnêtes...
Voilà. Pourquoi pas? Oui, 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 oui.
Dans ces cas-là, on fera le relais.
Voilà.
Et puis on vous laissera leurs coordonnées.
Souvent, il me dit, oh, mais je trouverai personne ici, parce que les filles, c'est n'importe quoi. Il préfère, c'est vrai, les gens, les Asiatiques, tous ces gens-là, qui ont une autre mentalité en fait que les Français. Hein.
Bah alors, tant mieux si jamais on a des jeunes femmes ou des femmes asiatiques qui nous écoutent et qui sont intéressées, ah
oui.
Pourquoi
oui,
pas
oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que ces gens-là ont une mentalité vraiment différente.
Qui ont l'air de lui convenir, en tout cas.
Oui, oui, oui. Bon. Mais oui, oui. C'est vrai, oui.
Bah écoutez, on va souhaiter que ça fonctionne, qu'il y ait des gens qui appellent pour lui.
Oui.
Et puis j'espère vraiment qu'il va être vraiment dans une ouverture.
Oui.
Et qui va s'autoriser maintenant à être heureux aussi.
Voilà. Oui. Oui,
parce que j'entends beaucoup d'autoprogrammation négative. Ça ne marchera pas, j'y arriverai pas, je rencontrerai personne.
Voilà.
Attention à ça aussi, parce que finalement, oui, oui. On se programme tout seul. Hein.
Oui, et oui. C'est ce que je lui dis. Mais bon.
Qu'il mette un peu de positif dans son esprit.
Voilà, voilà. Oui.
Oui, c'est vrai.
Et oui, oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.
Avec plaisir, Danielle. Embrassez Christophe pour moi et dites-lui que oui. Je lui promets qu'on fera le relais si on a des coups de fil pour lui.
C'est bien gentil. Oui, vous avez mon numéro de toute façon.
Est-ce qu'on peut garder ouais. Votre numéro alors?
Oui, tout à fait.
Parce que normalement, vous savez que c'est très exceptionnel puisqu'on ne garde le numéro que 24 heures après un passage d'antenne.
Ah d'accord. Ou alors je vous donne son portable?
Bon, on va faire après. Ça. Je vais vous repasser Théo ou Estelle.
D'accord.
Et vous allez régler ça avec eux. Ça sera plus simple, effectivement.
Oui, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, Danielle.
Au revoir.
Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Alors tout à l'heure, je vous ai demandé pourquoi, alors que vous avez souvent envie d'appeler, vous n'osez pas appeler sur la libre antenne. Vous êtes assez nombreux à me dire que vous n'osez pas parce que vous avez peur d'être reconnu, mais vous savez que vous pouvez donner un autre prénom et pas trop non plus de détails, de manière à ce qu'on ne vous reconnaisse pas. On me dit aussi, j'ai un accent, je n'ose pas parler à la radio. Mais vous savez, on peut aussi parler lentement et je peux vous aider à vous exprimer si quelquefois les mots ne viennent pas tout seuls. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez besoin, envie de parler ce soir, 3921, appelez-moi et nous ferons connaissance à l'antenne rapidement. Et c'est Charlie que j'accueille maintenant. Bonsoir Charlie.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'ailleurs pour le message que vous venez de passer parce que j'avoue que ça me rassure un peu et je me sens concerné par le stress. Donc,
mais c'est normal, c'est pas évident, je comprends tout à fait, de parler à la radio comme ça, c'est pas évident du tout. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, on est entre nous, prenez le temps qu'il faut. Et puis au bout d'un moment, on oublie qu'on discute à la radio, on a l'impression qu'on parle juste au téléphone avec quelqu'un qu'on connaît.
Oui, parce qu'en plus, Charlie, c'est pas mon vrai prénom. Enfin, je suis Charlie, mais c'est pas mon... Là, vraiment, à la radio, quoi. Mais c'est là, vraiment, j'ai emprunté un pseudonyme, quoi. Sinon, je suis pas... Charlie, quoi. C'est vraiment très, très impressionnant.
Mais je comprends. Dites-moi pour quelle raison vous m'appelez alors ce soir.
C'est pour une raison de fond, c'est-à-dire que je suis passé à l'hôpital psychiatrique et alors les infirmiers, etc., ont fait leur boulot, la psychiatre, le psychologue, etc. Maintenant, je suis en plus accompagné d'une assistante sociale, d'une intervenante sociale en commissariat gendarmerie. Bref, la totale, j'ai une équipe autour de moi, mais je me sens régulièrement seul.
Pardon, cher Charlie, mais pour commencer par le début, comment vous avez atterri en psychiatrie? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je n'ai pas de terme précis, c'est des relations... j'ai vraiment beaucoup de mal avec les relations avec les gens, disons qu'elles sont assez changeantes et je ne saurais pas me situer, si vous voulez. Moi, j'aimerais bien être quelqu'un qui me définit en étant soit extraverti, soit introverti, soit... Et j'ai l'impression de passer du tout du jour au lendemain, voire même avec la même personne. Et ce qui fait que je suis, avant une conversation, si vous voulez, je suis toujours en train d'anticiper. Enfin, c'est comme si je jouais un rôle. Par exemple, quand je suis en soirée, eh bien, j'ai tendance à être quelqu'un d'introverti. Comme si j'étais pas dans la même ambiance que les autres, comme si j'étais un peu renfermé sur moi. Et quand je tente d'être dans l'ambiance, tout de suite, j'ai l'impression que ça sonne faux. Par exemple, si tout le monde boit, je sais pas, enfin, à son verre, parce que moi, je suis pas très porté sur l'alcool, mais si par exemple tout le monde a son, vous savez, verre de whisky, de gin, enfin, les boissons traditionnelles. Je viens automatiquement avec mon pack de chouf. Enfin bon, du coup c'est pas vraiment le même degré d'alcool, mais du coup c'est moi-même comme si je me mettais à l'écart. C'est très compliqué à expliquer en fait, parce que là tout à l'heure avant de vous appeler, j'ai appelé l'hôpital psychiatrique par lequel j'étais passé pour être en lien avec les infirmières, parce qu'en gros j'aime bien, si vous voulez, être en lien avec les infirmières et infirmiers, d'ailleurs, qui s'occupaient de moi quand j'étais à l'hôpital cet été, pour perpétuer le lien, parce que quand j'étais à l'hôpital, vraiment, je me sentais bien, parce que je me sentais entouré. Mais la psychiatre m'en a sorti, m'a fait sortir de l'hôpital, parce que selon elle, je n'y avais plus ma place. Ce qui m'arrive, c'est de temps en temps appeler l'hôpital psychiatrique parce que je me sens seul le soir. Et pour parler de mes problèmes et de mes questionnements pratiquement existentiels, parce que dans le cas contraire là, enfin j'ai vu que je commençais un petit peu à les bassiner. J'ai dû parler 5 minutes avec eux, parce que c'est régulièrement que je les appelle et à force ils me connaissent, etc. Mais c'est pas leur rôle. Eux, ils sont là pour soigner vraiment les patients
dans les périodes de crise difficiles, quoi.
Enfin, je ne parle pas forcément par rapport au Covid, mais pour soigner ceux qui sont vraiment dans le... Vous voyez, là, je tremble un petit peu quand je parle. Je ne sais pas si ça s'entend, mais dans tous les cas, j'ai l'impression de forcer un petit peu.
Tout va bien, Charlie, rassurez-vous.
Merci. J'ai l'impression de forcer un petit peu la relation avec les infirmiers, puis avec les gens en général. J'ai l'impression de ne pas toujours être dans le même mouvement et du coup, j'ai tendance à vouloir forcer je parle beaucoup, mais j'ai tendance à vouloir forcer mon trait de personnalité pour faire semblant d'être quelqu'un d'extraverti.
Trouver votre place, quoi.
Oui, sauf que c'est très épuisant pour moi quand il y a beaucoup de monde. J'ai une personnalité. Alors, vous savez, j'ai fait un test sur Internet, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les tests MBTI ou ou quelque chose comme ça, en gros, qui définit votre personnalité, si vous êtes introverti, extraverti, à tendance sociopathe ou psycho, enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et alors, moi, il s'avère que je suis quelqu'un d'extraverti.
Attendez, plus sérieusement que les tests Internet, qu'est-ce qu'on vous a diagnostiqué à l'hôpital?
Il n'y a pas de diagnostic officiel. Mes parents, moi-même, sont assez pressants sur le sujet à chaque fois que j'avais rendez-vous avec la psychologue ou la psychiatre, Madame Zulman. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis son nom.
On va éviter. Bref, c'est interdit. Oui, voilà, c'est ça, c'est interdit.
Excusez-moi. À chaque fois, mes parents sont assez pressants. C'est ça ce qui me gêne, c'est que mes parents veulent toujours savoir ce que j'ai, alors que moi-même, je ne sais pas. Les professionnels de santé ne savent pas. Et tout ce que moi, je peux vous dire, et ce que je perçois, ce qui est vraiment factuel, c'est que j'ai des relations très difficiles avec les gens qui peuvent virer de la timidité extrême aux bagarres. Aux bagarres. Donc, par exemple, j'ai commencé à faire dans le but de prévoir une éventuelle altercation purement imaginative, parce que j'ai aussi beaucoup d'imagination. J'ai commencé, on tirait pas parce que je suis assez mince. Donc, déjà, même là dans le club, on se moque un peu de moi. J'ai commencé la MMA il y a à peu près 7 ans et la boxe en parallèle, si vous voulez.
C'est quoi la MMA ?
La MMA, c'est un sport de combat qui mêle la lutte notamment. Mm-hmm. Il y a aussi il y a Tangaki, le Muay Thai. Enfin, c'est quelque chose d'assez violent. Enfin, bon, je vous avoue que j'ai pas fait beaucoup de séances. Oui. J'en ai fait très peu. Parce que je sais pas, je me sentais différent. Alors, est-ce que c'est moi-même qui me juge? Moi-même en tant que comme si j'étais mis à l'écart, ou est-ce que c'est réellement le fait que les gens me mettent à l'écart? Est-ce que je me sens trop persécuté? Je suis peut-être parano, je sais pas. Mais toujours est-il que, en fait, le fond de mon problème, et c'est depuis très longtemps, c'est que j'ai des relations, une vision de moi qui est assez variable, et des relations, interpersonnelles qui peuvent varier avec une même personne.
Est-ce que vous êtes particulièrement intelligent? Est-ce que vous avez été diagnostiqué par hasard au potentiel?
Disons que je n'ai jamais fait ce genre de test, mais de manière assez égocentriste, enfin mégalomane, je me considère un peu comme élitiste, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, mais j'ai jamais fait de test pour démontrer ça. Mais je me dis quelque part, oui, moi, je suis l'élite intellectuelle, en tout cas. Enfin bon, j'ai jamais écrit de livre ou quoi que ce soit, évidemment.
Mais est-ce que vous avez été brillant dans vos études, par exemple, dans un domaine précis?
Non, j'avais des résultats en dents de scie, et même dans les... J'ai parlé avec un prof de français, j'ai rencontré récemment, il m'a dit, parce qu'apparemment, il y a eu des changements scolaires, maintenant, ce ne sont plus, à l'époque où moi j'étais au lycée, c'est plus un bac S, un bac L, un bac S, apparemment, maintenant, il y a des nouvelles matières qui font plus la place à la sociologie.
Attendez, je vous perds là, Charlie. Il y a un drôle de son dans le téléphone.
Est-ce que vous m'entendez mieux là, peut-être, ou je vais changer de pièce?
Ah, là, c'est parfait.
D'accord.
Merci.
C'est en Linky, peut-être, parce que quand je me rapproche des comptes en Linky, ça a tendance à.
Alors, évitez de bouger si vous le pouvez.
Ah, oui, ça, c'est. J'ai la gigote, excusez-moi.
Ça s'entend un petit peu.
C'est-à-dire que donc j'ai rencontré un prof de français, enfin j'ai revu un prof de français que j'avais lorsque j'étais au lycée, et qui m'a dit, ah ben tiens, les nouvelles matières telles qu'elles existent maintenant, telles que je te connais, ça pourrait te plaire. Donc parce que apparemment je suis très brillant à l'oral, il avait employé le terme de logos, je sais pas. Et donc j'ai commencé à parler avec lui, et je lui ai tout de suite dit que non, c'est pas parce que la matière pourrait me plaire que j'aurais forcément de bonnes notes. Par exemple, moi, j'étais assez bon en histoire en français, c'était les matières qui m'intéressaient le plus. Mais c'est pas pour autant que j'avais de bonnes notes, parce que c'était trop structuré à mon goût. Et le fait de faire un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes, une conclusion, moi, si vous voulez, j'aurais préféré faire une dissertation à ma façon. Sauf que donc, du coup, c'était pas vraiment les règles. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une prof de français aussi qui m'a dit que j'étais, qui m'a dit de manière peut-être péjorative, que j'étais un esprit un peu trop libre. Donc, ça veut dire. Donc,
Allô? Oui, le son était un peu entrecoupé. Dites-moi, à partir de quel âge vos parents vous ont amené voir des psys?
Disons que ça a commencé, je faisais de la déréalisation quand j'avais 15 ans.
De la quoi?
Déréalisation. Alors après, c'est un terme qui n'est pas forcément connu médicalement. des réalisations, des personnalisations. Donc ça c'est vraiment véridique. Hein. Ça c'est par contre c'est vraiment un truc qui est assez anxiogène, on va dire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Pas sous ce terme-là, c'est... non.
Alors en fait, bon, peut-être que si je vous le dis, ça va vous évoquer vous un autre terme. C'est le fait sous le coup du stress. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup de stress quand j'étais au collège, victime de harcèlement scolaire. Mmh. Donc ensuite, suite à quoi, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet pour essayer de trouver des gens avec qui parler. Donc depuis, je me suis enfermé sur moi-même. Et le fait de toujours passer du temps sur Internet, et de pas sortir de Je me rappelle, par exemple, ça m'avait marqué, c'était un 14 juillet, donc il y avait les feux d'artifice, tout le monde qui faisait la fête. Et moi, j'ai tiré les rideaux parce que la lumière des feux d'artifice, limite, me gênait. Parce que je voulais oublier que c'était le 14 juillet et que les gens faisaient la fête. Pendant que moi, je ruminais, j'étais dans mon anxiété. Et alors, pour revenir à ce que je disais, la déréalisation, c'est l'impression d'être dans un monde irréel. C'est l'impression d'être là, mais derrière une brume, derrière un voile, oui. Vous voyez.
Charlie, vous ne bougez pas, s'il vous plaît. On va marquer une pause, le temps des infos. On va reprendre notre conversation tous les deux dans quelques minutes.
Très bien.
D'accord.
Merci.
Posez-vous un instant et je vous récupère juste après les infos.
Oui, merci.
Merci à vous, à tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Pour cette deuxième et dernière partie de la Libre Antenne, nous sommes encore ensemble en direct, vous le savez, jusqu'à 1h du matin. Et vous pouvez bien sûr à n'importe quel moment continuer à m'appeler si vous souhaitez venir me parler ce soir. Vous faites le 3921. Estelle et Théo sont au standard, ils sont prêts à vous accueillir et à vous guider jusqu'à moi dans ce beau studio tout bleu d'Europe 1. 3921 donc pour le numéro de téléphone et pour participer, réagir par SMS, c'est toujours le 73921 suivi du mot nuit et de votre message.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et je retrouve Charlie. Charlie, vous êtes là ?
Toujours présent.
Toujours présent.
Je suis un peu...
Ah pardon, ça, je ne vous ai pas entendu, ça a encore coupé. Hein.
Ah zut, est-ce que vous m'entendez bien là ?
Il y a des micro-coupures si vous bougez.
Là, vous m'entendez ?
Allez-y.
Ouais, alors là, j'essaie de ne pas bouger.
Alors là, c'est bien.
Je suis en statue.
Ne bougez plus, ne respirez plus.
Ah, c'est la position statue, là.
Alors, qu'est-ce que vous me disiez juste avant ?
Donc, donc c'était pour vous dire que le temps de la pause, oui, tout simplement, j'ai l'impression que je suis j'ai moins le trac.
Vous êtes plus calme, oui, ça s'entend.
Oui, j'ai l'impression.
Mais dites-moi, tous les symptômes que vous mentionnez, là, est-ce qu'on a déjà évoqué devant vous des problèmes autistiques ?
Pardon, autiste ? C'est ça ?
Des symptômes d'une certaine forme d'autisme. Est-ce que ça a été envisagé ? Est-ce qu'on a fait des recherches pour vous de ce côté-là ? Parce que
en dépit de tous mes symptômes, je pense pas être... Alors moi-même, mon auto-diagnostic, je ne pense pas rentrer dans les critères. Après, il y a peut-être une forme d'autisme léger.
C'est ce que j'allais vous dire, vous savez, ça veut tout dire et rien dire. Il y a 1000 formes d'autisme.
Ouais.
Et cette difficulté dans l'interaction avec les autres, cette grande sensibilité au bruit ou à la lumière, tout ce que vous me décrivez là, ça peut être une forme, effectivement, d'une sorte. Il y a 1000 sortes, et des formes très légères aussi. Mais je suis un peu surprise qu'on n'ait pas cherché chez vous de ce côté-là.
Non. C'est vrai que maintenant que vous me le dites, alors je suis très sensible au niveau des odeurs, et enfin pas toutes les odeurs, on va dire tout ce qui est son, enfin encore une fois, c'est très fluctuant, c'est très étrange, ça peut le faire d'une semaine à l'autre, c'est vraiment très très bizarre. Les bruits, l'odeur, c'est vrai que ça peut parfois être trop présent, mais je peux faire abstraction. Ça dépend des conditions. Si je suis seul, admettons que ce soit les voisins qui fassent du bruit, ou par exemple, lorsque j'avais un colocataire, ça ne me dérangeait pas. Après, s'il y a trop de monde, et s'il y a trop de basses, vous savez, trop de musique, trop de... Là, c'est vrai que ça devient gênant. Et après, bon, c'est pareil, c'est assez fluctuant. On va dire que, pour résumer la chose, je suis assez sensible, en général, très sensible. Oui. D'ailleurs, on m'a très souvent dit ça, je suis quelqu'un de très sensible. D'ailleurs, bah, je vous avais évoqué le compteur Linky juste avant.
Oui.
Oui, alors je ne sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est vraiment le cas, mais j'ai l'impression que depuis qu'on a installé les compteurs Linky, je me sens plus, comment dire, électrique. Vous voyez ce que je veux dire ?
Il y a des gens qui effectivement mentionnent ça. Il y a même des usagers qui se sont formés en association pour attaquer ça et signaler ces problèmes-là avec ces compteurs. Oui. J'ai entendu déjà ça.
Ah oui, et donc en dépit de ça, ça n'a jamais été fait.
Oui, je crains.
Il n'y a jamais eu de...
Oui. Ça n'a pas bougé, quoi. Ouais.
Bon. Ouais.
En tout cas, vous êtes plus sensible que la moyenne et vous avez une instabilité, un terrain un peu fluctuant qui change beaucoup d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre.
Mais ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi ? Parce que ça m'épuise.
Mais je suis vraiment très surprise qu'aucun psychiatre n'ait jamais posé des mots là-dessus.
Bah, disons que ma psychiatre, je la vois tous les 3 mois, et alors, de ce qu'elle me dit, elle est juste là pour me donner les médicaments. Alors, moi, psychologue depuis plus récemment, avec qui, bon, bah, je peux parler.
Ah, je vous repère, Charlie, voilà. Ça coupe.
Ah, et est-ce que vous repérez, Charlie ?
Allô ? Allez-y.
Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, là, ça y est, c'est revenu, oui.
Ah, d'accord. Je pense qu'il y a vraiment un coin spécial où il faut que je me... Un coin stratégique qu'il ne faut pas que je quitte pour... Et donc, oui, je disais que je voyais une psychologue qui se tente plus de l'écouter, mais ce n'est pas vraiment de diagnostic. Elle n'est pas vraiment très... Enfin, elle ne se risque pas, si vous voulez, à prendre de diagnostic. Et quant à ma psychiatre, elle s'occupe... Alors, je ne sais pas si elle a raison ou pas... Uniquement du traitement médical, médicament, c'est uniquement ça. Et pour parler du reste, après, elle n'a pas beaucoup de temps. J'ai l'impression que parfois, elle est assez pressée, quoi. C'est donc, du coup, pour où me tourner pour avoir un diagnostic ? Parce que la psychologue ne m'a rien évoqué de spécial.
Alors effectivement, ça je peux comprendre, la psychologue, ça n'est pas son rôle. Elle est là pour vous aider à parler des choses et à avancer. C'est le travail d'un psychiatre, ça. Ou voire à la base déjà d'un bon médecin généraliste, qui vous connaît.
Après j'avais un médecin, mais j'ai déménagé à un médecin que je voyais depuis plus jeune, et depuis j'ai plus vraiment de médecin traitant. Enfin, je vois des médecins par-ci par-là, mais sans vraiment qu'il se soit... entre guillemets, vraiment le médecin que je vois. C'est, je ne veux pas un médecin.
Il n'y a pas de suivi.
Mais sans quoi, j'ai vraiment l'impression
que... Charlie, vous continuez à bouger, là.
Je sais...
Voilà, je vous ai perdu complètement. Est-ce que vous avez une fenêtre, près de vous ? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher d'une fenêtre ?
Ah oui, une fenêtre.
C'est ce que me dit Simon, notre réalisateur. Ça sera plus facile si vous êtes près d'une fenêtre. Alors, on va tester.
Est-ce que vous m'entendez ?
Oui. Allez-y.
1, 2.
Ouais, non, c'est pas vraiment mieux. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone fixe par hasard ?
Alors non, je n'ai pas de numéro de téléphone fixe. J'en ai pas, juste un téléphone portable.
Bon, on va essayer de continuer quand même, mais c'est pas évident. Alors allez-y.
D'accord. Donc oui, ma psychiatre, est-ce que vous m'entendez mieux là ?
Oui, j'ai les consonnes et les voyelles en même temps, c'est plus facile.
Ah, bon. Ce qui est problématique, c'est que je suis dans les toilettes, alors c'est pas forcément le...
Ça ne se voit pas, c'est pas non plus...
C'est pas non plus... Enfin non, j'ai connu des toilettes qui étaient plus sales. Une fois que je suis allé chez quelqu'un qui m'a invité chez lui, heureusement, là, je suis pas, mes toilettes sont très... Donc je vous disais simplement que ma psychiatre, si vous voulez, je la vois tous les 3 mois, et elle se contente, grosso modo, et elle se contente uniquement de me prescrire des médicaments. Et je lui ai demandé, est-ce que selon vous, je suis schizophrène, bipolaire, borderline? Et pareil, elle a dit, pour l'instant, je ne pense pas.
Et quels médicaments elle vous donne, alors, si elle n'avait pas de diagnostic posé?
Alors, je prends du escitalopram.
Non, les noms, peu importe les noms, c'est quel type de médicament? Ah oui. Est-ce que c'est antidépresseur, anxiolytique, ou c'est quel est le...
Anxiolytique, antidépresseur, en dépit que je ne suis pas dépressif, et aussi du un somnifère que je ne prends plus. J'ai décidé d'arrêter de prendre parce que j'avais peur de m'accoutumer. Mmh. Et tout ça pour m'aider donc à être pour m'aider à être plus calme et à me poser moins de questions, parce que quand je suis en fait, voilà, l'objet de mon appel, c'est que toutes les relations sociales, si vous voulez, la plupart de mes relations sociales me pèsent énormément. Ça, vraiment, faut vraiment le savoir. C'est quelque chose. C'est très peu de gens peuvent l'imaginer. Comment, pour moi, une relation sociale peut être très très énergivore, parce que je sais pas si je dois forcer le trait, si je dois rester introverti, et si jamais, si je suis trop introverti, est-ce que je vais être accepté par le groupe, est-ce que je dois forcer le trait, est-ce que si je commence à être extraverti, est-ce que les autres vont se rendre compte que je fais semblant? En fait,
allô? Simon dit qu'on a totalement perdu Charlie là. Bon, on va passer un peu de musique, on va voir si on peut récupérer Charlie. À tout de suite.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Alors, nous n'avons malheureusement pas réussi à rétablir une communication correcte avec Charlie, mais sachez que nous lui laissons un message pour le diriger vers des psys compétents et notamment vers des centres spécialisés dans les diagnostics d'autisme et de haut potentiel pour essayer de l'aider à avancer. C'est Lucas que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci. Donc, je me permets de vous appeler pour avoir votre regard et peut-être... l'avis des gens qui écoutent l'émission sur des troubles que mon petit garçon subit depuis 5 ans.
Oui, quel âge a-t-il?
Il va avoir 10 ans. Mmh. Donc, il a commencé à une réunion de famille en plein restaurant, après le repas, à se retrouver inondé d'urine. Au moment où je suis séparé de sa maman, et au moment où je lui ai dit il va falloir qu'on se prépare pour aller retrouver maman, il s'est inondé et ça m'a inquiété. Et puis ça a continué de jour, de nuit. Puis après, il a fait de l'encoprésie. Puis après, il s'est mis à bégayer. Puis après, il a eu des comportements liés à la sexualité qui m'ont vraiment inquiété. C'est-à-dire qu'il avait un tableau dans sa chambre. Il faisait ses premières représentations d'être humain avec deux jambes, enfin les bâtons, le rond pour la tête et puis les bras. Et puis il faisait un long zizi comme une troisième jambe. Ça m'a un peu inquiété, mais j'ai lu et je me suis dit, bon, apparemment ça peut être normal. Et puis après, là, il a simulé des actes sexuels, il a fait des dessins avec des zizi dans la bouche et tout ça. Donc j'ai commencé à essayer d'en parler à la maman qui me disait que s'il y avait tous ces problèmes-là, il fallait que je m'en remette en question, c'était qu'il se passait quelque chose chez moi qui n'allait pas. Donc ça m'inquiétait qu'elle n'entende pas ma détresse et mon inquiétude. Et j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit, bah, il faut que tu fasses quelque chose, il faut faire un signalement. Et j'ai fait le 119. Oui. Et depuis, je vis un enfer.
C'est-à-dire? Juste pour une question que je me pose, est-ce que votre ex-femme a quelqu'un dans sa vie, un homme?
Non.
Vous êtes sûr de ça?
Oui.
Bon.
Donc, j'ai fait le 119. Je savais, j'ai pas pris la précaution de voir... et de regarder comment ça pouvait se passer et ce que ça pouvait supposer. Donc, la CRIP s'est mise en route. J'ai été convoqué aux services départementaux. On m'a demandé si c'était bien le signalement que j'avais fait. Et quand j'ai eu la personne du 119, j'ai fait le récit de toutes mes inquiétudes. Et on m'a dit, avez-vous une idée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait... vous venir en tête, un trouble? Bah, j'ai dit, il y a quelque chose qui me paraît quand même... Ce qui m'inquiète, c'est qu'il avait 5 ans, voire 5 ans et demi, 6 ans, il dormait avec sa maman depuis qu'il était tout petit. Et j'ai dit à la personne du 119 que je trouvais ça bizarre et peut-être qu'il y avait une marque d'affection de la maman qui pourrait faire penser à quelque chose d'incestueux et que ça m'embêtait, que ça m'inquiétait. Et j'ai dit, mais puis en plus, j'ose pas trop vous appeler parce que je sais qu'elle est fragile et puis qu'elle pourrait passer un acte. Alors, du coup, dans le compte-rendu, c'est écrit que je la dénonçais comme quelqu'un d'incestueuse et de suicidaire.
Oh là là, ouais.
Et donc après, c'est parti. Et puis là, bah, je me suis retrouvé dans une gendarmerie. Je me suis retrouvé... je viens à Nanterre. Et sauf que mon petit garçon, il est toujours avec ses problèmes. Et là, avec tout ce qu'on entend dans les médias, bah, j'arrive pas... Alors, je me fais passer pour un papa anxiogène. On dit que tous ces troubles, ils sont liés à mon anxiété. Et donc, il est suivi par le juge pour enfants. Ça fait deux fois qu'on passe devant le juge. Il y a une AEMO. Et je suis un peu déçu parce que ça tourne en rond. On a eu des expertises. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, peut simuler des scènes sexuelles, peut faire des dessins, et que ce soit dans un développement normal de l'enfant de cet âge-là? Et parce que moi, j'en parlais autour de moi avec des amis, des collègues, elles me disaient, toutes, puis j'essaie que ce soit des mamans, elles me disaient, non, faut que tu fasses quelque chose, là, c'est pas possible. Mais maintenant, je sais plus. Et là, quand j'entends dans les médias, je me dis, j'ai des doutes, et enfin, ça revient tout le temps, je me dis, c'est pas possible. Et ça continue, il a encore l'encoprésie et de l'énurésie et des périodes de bégaiement. Par contre, il est très brillant. Et je me suis rendu compte, alors j'écoutais tout à l'heure Charlie, je me suis rendu compte que je pense qu'il est zèbre ou au potentiel ou hypersensible et que probablement que moi aussi. Alors je ne sais pas si tout ça c'est lié, je ne sais pas, mais en tout cas sur l'aspect sexualisé d'une période... Alors ce qui est curieux, c'est que du jour où on a été entendu par la gendarmerie, chacun de notre côté, ça a été terminé. Du jour où sa maman, j'ai su qu'elle avait été entendue par les gendarmes par rapport à tout ça, il n'y a plus jamais eu de troubles liés à la sexualité.
En tout cas, visiblement.
Et donc, oui, visible. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vois plus. Mmh. Et alors, ce qu'on me dit, c'est que souvent, il y a des papas qui font ça. C'est par rapport à des conflits de loyauté. Donc, ils essaient de trouver des gros... dénonciations comme ça pour essayer de récupérer un peu plus de garde. Moi, je ne savais pas ça du tout. Donc, j'ai été cataloguée dès le départ comme ça.
Mais malheureusement, c'est certains parents, hommes ou femmes, se servent de ça comme d'un outil de manipulation.
Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, mais moi, je n'avais pas du tout pensé à ça. Moi, j'ai essayé d'aider mon fils. Et puis, puis, en fait, il a fallu que je me débatte depuis par rapport à cette étiquette qu'on m'a mise. Et pendant ce temps-là, le problème, il avance pas beaucoup pour lui parce qu'il n'a pas de suivi.
Alors, c'est ce que j'allais vous demander, ce petit bonhomme, normalement, il doit avoir une pédopsie dans des situations comme ça.
Eh ben non, il n'a rien du tout.
Et pourquoi ?
Parce qu'il a du mal à parler. Moi, au tout départ, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai emmené dans un CMPEA de par moi-même, et on a commencé un entretien régulier toutes les semaines avec un pédopsychiatre, et la maman, elle s'est opposée, elle a écrit au centre pour dire qu'elle ne souhaitait pas qu'il soit pris en charge, donc ça s'est arrêté, et il a fallu que j'attende au moins un an, parce que j'ai essayé de la décider par mail, elle a fini par accepter, mais avec la liste d'attente pour avoir une place, et puis un an s'est passé entre deux, puis après on a repris, mais ça s'est pas très bien passé, parce qu'on a essayé d'alterner entre un rendez-vous chaque semaine avec la maman et avec moi-même. Mmh. Et ils ont dit, l'équipe, qu'ils trouvaient qu'il n'avait pas trop de problèmes, que le problème, c'était moi qui étais anxiogène. Donc, Donc moi, je me dis, si tous les enfants de parents séparés, qui peuvent même s'il y a un conflit, et si même il y a un papa anxiogène, s'ils font de l'encoprésie, de la nuraisie, du bégaiement et... presque une année avec des comportements hyper sexués comme ça.
Et voilà, le problème pour moi, il est là. Parce que tout ce qui est notamment problème d'urine, ça peut être lié à un souci de territoire. Donc il se peut qu'un enfant perturbé par des séparations, perturbé de ne plus avoir sa place ou de perdre quelque chose, développe des problèmes d'énurésie. Ça, c'est possible. D'autres troubles peuvent effectivement arriver par stress, mais tout ce qui est sexuel, vous savez très bien que dans la très grande majorité des cas, ça vient forcément de quelque chose qui s'est passé. Alors, c'est pour ça que je vous demandais si votre femme n'avait pas fréquenté un homme, un autre homme, qui aurait pu avoir des gestes envers cet enfant. Non. Ou alors à l'école, s'il n'y a pas eu un jour quelque chose.
Si, à l'école, il y a eu des choses. Il y a eu des exhibitions, il m'en a parlé.
Ah.
Entre eux. Donc, il y a une époque où je me suis dit peut-être que ça pourrait être lié. Mais depuis, il m'envoie quelques perches. Il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois, 8 mois, un soir au goûter, il me dit « Papa, est-ce que je peux te poser une question ?» Je lui dis « Bah oui. » Il me dit « Qu'est-ce que tu penses des adultes qui dorment nus ?» Donc je lui dis « Bah, tu sais, les adultes, à partir du moment où ils sont seuls chez eux, ils font ce qu'ils veulent.
Mm-hmm. »
Et puis je lui dis « Bah après, s'ils sont pas seuls, s'ils sont deux, faut que les deux personnes soient d'accord. » Et puis là, bah, c'est pareil, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps. Et je lui dis « Mais pourquoi tu me parles de ça ?» Et il me dit « Bah parce que je dormais pas et j'ai vu maman se lever la nuit. Et elle était nue. » Bah, je lui dis « Bah ouais, bah, il se trouve que tu dormais pas et tu l'as vu, mais elle fait ce qu'elle veut, maman. Et enfin, moi, ça me pose pas de problème. » Et puis là, je l'ai senti gêné. Puis il m'a dit « Ouais, mais le problème, c'est que dans son lit, il y avait ma petite sœur. » Et là, je savais plus quoi dire. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut me dire ? Est-ce qu'il veut me dire que quand lui, il est avec elle, c'est dans la même situation ? Enfin, j'ai senti un malaise. Et donc, je lui ai dit, bah, on va reprendre la conversation un peu plus tard. Et on l'a reprise. Et j'ai pas pu approfondir. Et puis, une autre fois, il m'a dit, il s'intéresse à un jeu vidéo qui s'appelle Zelda. Et il me disait, le personnage, quand il a des troubles de la mémoire, il essaie de repartir à l'endroit où il pense qu'il s'est passé quelque chose, mais dont il a du mal à se souvenir. Et le fait de revenir à l'endroit même, on peut retrouver ce qu'on a oublié. Et il me dit, bah, j'aimerais bien que tu m'emmènes dans la maison que maman avait quand j'étais plus petit, parce que comme elle a déménagé, je voudrais voir s'il y a des choses qui me reviennent. Et en fait, parce qu'il s'est passé tout ça, et la maman, elle a déménagé juste au moment où j'ai fait le 119. Elle a changé de maison. Et j'ai trouvé ça curieux qu'ils me disent ça. Donc je l'ai emmené devant, parce qu'elle était habitée par d'autres locataires, et il m'a parlé de sa chambre, il m'a fait voir la fenêtre, mais il n'y a rien qui est sorti non plus. Mais il y a des petits appels comme ça qui me paraissent... Alors moi je me dis peut-être que c'est mon hyper-anxiété ou je ne sais pas. Puis donc j'arrive pas à être objectif, parce que je sens quelque chose. Depuis qu'il est petit, je ressens quelque chose qui dégage quelque chose qui m'inquiète.
Mais en vous écoutant, ça paraît assez évident. Un enfant n'invente jamais des histoires sexuelles. Il ne peut pas les inventer s'il ne les connaît pas. Après, les troubles du bégaiement, de tout ce qui est propreté, ça peut être lié effectivement à d'autres stress. Mais à partir du moment où il y a des dessins, des représentations, des comportements autour du sexe, aussi petit, c'est forcément qu'il y a eu un problème. Il s'est passé quelque chose à un moment donné. On ne sait pas forcément ni où ni avec qui, mais il s'est forcément passé quelque chose.
Moi, j'ai cru, quand j'ai eu les dessins, j'ai cru que j'allais aller, en allant vers des spécialistes, j'ai cru qu'on allait pouvoir me déterminer en fonction des dessins si réellement il avait subi quelque chose. Et en fait, on m'a renvoyé avec mes dessins. On m'a dit que ça pouvait être moi qui lui avais dicté, que ça pouvait être moi qui les ai faits. Enfin, j'ai entendu. Et je me suis rendu compte qu'il y a 50% des professionnels qui me disent c'est soit il a vu des images, des vidéos, soit il a subi quelque chose, c'est sûr. Et d'autres qui disent c'est le développement normal de l'enfant, ça peut arriver et ça n'a pas forcément de conséquences. Et là, vu tout ce qu'on entend dans les médias et tout ce que je lis depuis que c'est arrivé, je me dis que c'est quasiment sûr qu'il s'est passé quelque chose. Mais je sais pas.
Moi, j'ai jamais vu d'enfant de cet âge-là avec des problèmes de rapport au sexe à qui n'était jamais rien arrivé, franchement.
Alors donc, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'à l'époque, j'en ai parlé, comme il y avait eu des petits trucs à l'école, des petites scènes dans la cour, j'en avais parlé à la psychologue scolaire, elle l'avait pris avec elle, et alors ce qui m'avait conforté, c'est qu'elle m'avait dit, il a fait des dessins très douteux, donc j'aimerais bien vous voir pour vous en parler, et en fait, j'ai amené mes dessins, il a fait exactement les mêmes. Donc c'était des êtres humains, et le sexe de l'homme était prolongé. Il faisait un sexe de l'homme et il prolongeait au crayon et ça allait dans la bouche d'une dame.
Et qu'est-ce qu'elle en dit, elle, alors ?
Bah, elle m'a dit que c'était normal. Alors, j'étais complètement... J'ai perdu.
J'ai du mal à imaginer qu'on puisse vous répondre ça sans creuser un peu plus, quand même.
Et là, il y a quelques jours, enfin, il y a quelques... J'ai appelé une association nationale, SOS Inceste. Mmh. Je suis tombé sur une professionnelle qui m'avait l'air vraiment avoir beaucoup de compétences. Et elle, m'a dit, moi, je suis quasiment sûr qu'il s'est passé quelque chose.
Alors, il y a des scènes auxquelles il a pu assister aussi.
Oui, oui. Alors, le problème, c'est que dans le cas, là, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est dormi. Et il dort encore. Et l'autre jour, il m'a dit... encore quelque chose qui m'a inquiété. Il m'a dit, papa, il était dans la salle de bain, il faisait sa douche. Il m'a appelé, il m'a dit, papa, j'ai une intuition. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis resté à la porte. Il m'a dit, je refais pipi, je commence à bégayer, j'ai des problèmes. Et je crois que c'est parce que je repasse des nuits avec maman. Et là, quand il m'a dit ça...
Et vous arrivez à en parler avec votre ex-femme de ça?
Ah ben non, je vous dis... Alors le problème, c'est que les gendarmes, à l'époque, nous ont dit à chacun, soit on continue la procédure, il y a des gros risques que l'enfant soit placé dans une famille d'accueil, soit on essaie de délayer ça par vous-même et vous vous rencontrez, vous essayez d'en parler. Et donc on s'est rencontrés et une fois, et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas en parler. Que ça l'a ramené à des choses trop difficiles pour elle et que c'était, elle pouvait pas en parler.
Donc il y a bien quelque chose, sinon elle vous dirait pas ça.
Bah ouais, mais moi on est resté là-dessus. Et mmh. J'ai cru après, parce qu'il y a eu une MIF après, une mesure d'investigation familiale. Et là je me suis fait passer pour un manipulateur anxiogène. Enfin, il a fallu que je me batte pour essayer de recentrer le problème et le débat autour de cet enfant-là, de mon fils. Et puis là, maintenant, il y a une AEMO, donc assistance éducative en milieu ouvert. Et je trouve que c'est pareil, ça, c'est long.
Mais est-ce qu'il n'est pas assez grand, votre fils, à son âge maintenant, pour dire des choses à sa mère directement?
Bah, c'est ce que je finis par me dire, mais... Mais ce qui est difficile, c'est de penser qu'il est encore dans le milieu où peut-être il s'est passé des choses, où il s'en passe encore, et c'est super difficile, je trouve. Parce que il y a des fois, j'ai encore envie d'alerter, dire peut-être qu'il y a un endroit où il faudrait pas qu'il soit, mais sauf que je me rends compte qu'on peut rien faire, en fait. Alors quand j'entends dans les médias... Quand vous avez un doute, quand il y a un enfant qui émet des signaux inquiétants, en fait, le 119, moi, je me dis maintenant, je ne sais pas ce que je ferais si j'avais à le refaire. Je ne sais pas ce que je ferais.
C'est qu'ils ont géré ça au bazooka, quoi.
Ah ouais, c'est un rouleau compresseur, une fois que vous avez fait ça. C'est... je trouve qu'on devrait prévenir, dire, soit vous le faites d'une façon anonyme, soit vous le faites en votre nom, mais il se peut qu'après, si c'est entre parents... Il y a des profils qui se dessinent après. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce qu'on fasse un profil comme ça. Enfin, là, depuis, je pense que dans les gens qui ont travaillé autour de ce souci-là, ils pensent que, enfin, ils disent, je pense que je suis un pervers narcissique qui
Mais vous tombez au milieu de tous les clichés habituels, quoi.
Qui manipule tout le monde pour ses propres besoins ou ses propres... c'est compliqué.
Mais vous avez mentionné tout à l'heure une petite sœur.
Ouais.
C'est votre fille?
Non.
C'est la fille de qui?
Je sais pas. Elle est de personne.
Elle est plus jeune ou plus âgée, plus petite que lui, c'est ça?
Oui, plus jeune.
Donc ça revient à ce que je vous demandais tout à l'heure, il y a bien eu un homme dans la vie de votre ex-femme?
Non.
Belle. C'est-à-dire?
J'ai pas envie de donner trop de détails parce que... Non. Donc la maman, elle a deux enfants, dont le mien, et l'autre, le papa, il n'y a pas de papa. Enfin, en tout cas, c'est le discours de mon fils et je sais que son discours est juste.
C'est difficile, là. Si j'ai pas toutes les cartes en main, ça m'est compliqué de comprendre ce qui se passe. À propos de cartes, justement, j'aimerais vous suggérer un exercice, quelque chose à faire avec votre fils, si vous en avez envie.
Oui.
Vous allez chercher des informations sur Lise Bartoli.
Lise Bartoli.
Lise Bartoli, qui est une excellente pédopsychiatre et qui a créé des jeux de cartes, les cartes de Lise Bartoli. Ce sont des cartes avec des dessins. Et vous allez pouvoir proposer à votre fils de choisir des cartes au hasard, avec de gros guillemets, parce qu'il n'y a pas de hasard, et de raconter des histoires avec ces cartes. Et très très souvent, on se sert de ça en thérapie avec les enfants, parce qu'à travers les histoires qu'ils recréent avec ce qu'il y a sur les cartes, ils vous racontent leur histoire.
Ah ouais, c'est intéressant.
Les cartes de Lise Bartoli.
Ouais, j'ai noté, et je vais le faire, parce que je lui ai acheté un livre, dont j'ai oublié le titre, sur le corps de l'enfant et ce dont il doit se protéger. Et je me rends compte qu'il le lit, qu'il le relit, qu'il y revient, qu'il réfléchit. Et ouais, ça m'interpelle un peu, ça. Parce que je me suis dit que j'avais entendu un résumé de ce livre et ça me paraissait vraiment bien rédigé. Et il a l'air de s'y intéresser. Il a un journal intime aussi. Et il a écrit ce qu'il a entendu dans les médias, les affaires dont on parle en ce moment. Mmh. Il a écrit un récit, il a écrit tout le récit, et il dit que il termine le récit, il dit peut-être que je suis victime de l'inceste, et il met point d'interrogation.
Mais qu'est-ce qu'il vous faut d'autre comme preuve ?
Ben, je sais pas. C'est vous savez, c'est on veut pas y croire. Enfin, on se dit que c'est pas possible déjà. Enfin, moi je me dis que c'est pas possible. Et plus on avance, plus on se dit ça doit être possible, et c'est difficile. Enfin, les enfants, c'est un peu notre prolongement, et c'est une salissure qu'on a du mal à accepter, à réaliser.
Là, il est évident qu'il y a des choses qui sont pas claires du tout du côté de votre ex-femme.
Hein. Ah ça c'est sûr. Mais sauf que il y a une expertise psychologique qui est dans ce sens-là, et je comprends pas. Dans l'expertise psychologique, c'est écrit qu'elle a des troubles, vraiment, qu'elle est complètement focalisée sur moi, qu'elle n'arrive pas à tourner la page, et qu'elle donne une mauvaise image à l'enfant du père, que l'enfant a du mal à s'autoriser d'aller vers son père alors qu'il y a une demande, et qu'elle est suicidaire avec risque de passage à l'acte. Et ouais, je sais pas, il se passe rien. Donc du coup, ça me crée quand même une certaine anxiété. Et voilà.
Qu'est-ce qui vous a amené au divorce il y a 5 ans ?
Il y a plus que ça, il y a 10 ans.
À 10 ans, pardon.
On s'est séparés à sa naissance.
D'accord.
En fait, on devait se séparer. On a eu une relation assez chaotique, passionnelle et chaotique. Et on devait se séparer, et elle n'était pas motivée d'une séparation. Par contre, le jour où elle m'a dit qu'elle était enceinte, elle m'a dit avec beaucoup d'énergie qu'elle était prête à la séparation. Et donc on s'est séparés comme ça. Mmh. Donc il a une histoire un peu particulière quand même. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est pas des troubles qui sont liés aussi à son histoire un peu particulière, mais bon.
C'est là que je vous disais tout à l'heure, peut-être certains troubles liés notamment à ces problèmes de tout ce qui est propreté. Ça peut être effectivement lié à son histoire, mais pas le reste. Pas le reste, évidemment, non.
Parce que, il a eu des comportements. Ah ouais, puis il y a eu aussi, en fait, son organe sexuel quand il était petit, je crois que c'est ce qui m'a le plus perturbé. Il a doublé de volume, c'était impressionnant. Et puis du jour où on a été convoqué par la gendarmerie, tout est redevenu normal. Puis c'était une obsession. Tout était rapporté à ça, tout. Alors il simulait des actes sexuels masculins et féminin aussi, c'est ça qui je comprenais pas. Il simulait des masturbations féminines, et il simulait des actes de pénétration plutôt masculine.
Il est clair que cet enfant, même s'il n'a pas été lui-même touché, a assisté à des scènes qu'il n'aurait pas dû voir. C'est une évidence.
Mais sauf que les professionnels le directeur du CMPEA, ils m'ont dit non, nous on n'est pas inquiets, ça peut être le déroulement normal.
Là c'est pas sérieux, franchement Lucas, c'est pas sérieux. Il faut que vous trouviez des gens qui soient un peu plus investis, un peu plus sérieux dans ce travail-là.
Alors, ouais, sauf que maintenant, c'est plutôt l'AEMO qui... Mais alors, ils sont contre un suivi parce qu'ils disent qu'il est trop fermé et qu'il n'a pas besoin de suivi psychologique, alors que moi, j'aimerais bien qu'il ait un endroit neutre où pouvoir...
Trop fermé, s'exprimer. Mais c'est justement quand on est trop fermé qu'on a besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est que, Qu'est-ce que, c'est que cette manière de gérer les choses, là?
Ouais, je comprends pas.
Il est trop fermé, attendez. Dites-moi, est-ce que vous connaissez vos beaux-parents, la famille de votre ex-femme, un petit peu?
Oui.
Est-ce que vous pouvez imaginer comment les choses se sont passées pour elle quand elle était enfant?
Oui, je sais. Ça s'est mal passé.
C'est-à-dire?
Elle a subi elle-même aussi des choses. Voilà. Sous le regard de ses parents.
Cherchez pas plus loin. Hein.
C'est pas... On va pas, je sais pas si on peut appeler ça de l'inceste, parce qu'elle a subi quelque chose par un salarié de ses parents, mais sous le regard des deux parents.
Non, mais oui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est cousu de fil blanc, cette histoire, depuis le début. C'est une telle évidence.
Ouais, c'est pour ça que je ça fait longtemps que je vous écoute et que je me dis, j'aimerais bien avoir, parce que j'écoute vos auditeurs qui disent que des fois, on réalise des choses en
parlant, bien sûr.
Ouais. Et donc moi-même, j'ai développé des problèmes de santé, forcément des gros problèmes, parce que ça m'a...
Il y a de quoi être détruit, hein.
Là je me suis... Alors je me suis rendu compte qu'avec le stress, on développait des hormones qui détruisent, et puis j'ai développé des maladies, et puis c'est compliqué, mais... Alors, en fait, tout se retourne comme ça. Alors, maintenant, ils disent aussi qu'il est troublé, il a tous ces problèmes-là parce que j'ai des problèmes de santé, que ça l'inquiète, et alors qu'il m'en parle. Comme là, ils ont dit, c'est le Covid aussi. Le Covid, ça peut l'inquiéter, donc il fait l'anurésie, l'encoprésie. À chaque fois, il y a un nouveau thème.
J'arrive pas à comprendre sur quel type de gens vous êtes tombés, là.
Je me dis que c'est pas possible de pas avoir de chance à ce point-là, parce qu'en fait... Ça a changé de la mesure d'investigation familiale. C'est pas les mêmes équipes que l'AEMO. Donc moi, je me disais, on peut tomber sur une équipe un peu bancale. Et là, je pensais que l'AEMO, ça allait être. Mais ouais, je me dis que déjà, c'est le suivi, il est super léger. Et puis c'est vrai qu'avec le Covid, ça a été fait d'une façon un peu superficielle. Et puis lui, il attend beaucoup. Lui, il demande de l'aide, lui. Il en demande beaucoup, lui. Il m'en parle souvent, il me dit « Papa, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui m'aide, qui puisse m'écouter. » Mais c'est compliqué. Donc, je pense à tous les enfants, avec tout ce qu'on dit. Et la personne que j'ai appelée de l'association, elle me disait qu'il y avait plein d'appels. Et elle me disait, par contre, c'est souvent des mamans, il n'y a pas beaucoup de papas.
Ouais.
Et elle me disait que c'est vrai que s'il y avait un soupçon qui s'est passé quelque chose avec la maman, c'est rare. Et du coup... Elle me dit, c'est certainement pour ça que vous êtes stigmatisé, parce que c'est déjà tabou au premier abord. Alors si en plus, on sous-entend que c'est un petit garçon qui serait victime peut-être de sa maman, alors là, on ne peut pas l'entendre.
Sauf qu'il va arriver un moment, comme je vous le disais, où c'est lui qui va le dire, très clairement.
Je sais pas.
Parce qu'il va arriver dans la préadolescence, là, maintenant.
Là, il m'a dit, il y a 2 jours, il m'a dit, c'est vrai que maman, elle m'embrasse quand même beaucoup sur la bouche, et pourtant, c'est pas mon amoureuse, et ça me gêne un peu. Et il m'a dit aussi des choses comme maman, elle met de la musique, et puis elle danse nue devant moi, et je trouve que c'est quand même curieux tout ça.
Ça me semble énorme tout ce que vous me racontez là.
Oui, c'est énorme. Mais...
Bon, je n'ai que votre version des choses, et je vous crois volontiers, mais ça me paraît délirant, vraiment.
À ce moment-là, ça fait 5 ans que je me rabâche. Alors, ce qu'on m'avait dit, c'est que j'ai été voir une assistante sociale qui m'a beaucoup aidé par téléphone et de part, puis je l'ai rencontrée. Elle m'avait dit, pour que vous teniez le coup, à chaque fois qu'il y a quelque chose, vous mettez la date, vous ouvrez des guillemets, vous marquez ce qu'il vous a dit, ce qui s'est passé, et je l'ai fait. Donc, j'ai un cahier, les pleins. Et une chance que j'ai écouté cette femme, parce que c'est vrai que des fois, je me dirais, j'ai délirais. Alors que là, je peux relire Et je sais que ce que je dis, c'est pas du délire.
Et vous pouvez aussi prendre en photo les pages du journal intime de votre fils, en témoignage.
Ouais, mais alors j'ai fait une bêtise par contre, parce qu'on m'a dit que... Parce qu'il est très très brillant à l'école. C'est un enfant hyper brillant. Donc, ils disent que c'est pas possible qu'il ait des problèmes. Ça se passe trop bien à l'école, alors que lui dit que c'est son refuge. C'est là où il sent sécurité. Et il dit que c'est son refuge. C'est le mot qu'il utilise. Les professionnels, ils disent que s'il avait vraiment des problèmes graves, il y aurait des répercussions sur son travail scolaire et sur son comportement à l'école. Et il y a un an, il a eu des idées suicidaires, il se cachait sous une table de ping-pong à la récréation. Et en fait, c'est là où j'ai cru comprendre qu'il pouvait être hypersensible ou au potentiel ou zèbre, parce que, en fait, il y a un petit garçon qui était au potentiel intellectuel que je connaissais bien, qui est arrivé dans sa classe, et ils se sont collés entre eux, et depuis, je trouve qu'il est beaucoup équilibré. Il a pris conscience de plein de choses et il s'est affirmé. Mais en tout cas, ce problème-là, je trouve que... Enfin, j'arrive pas à évaluer, quand je vous écoute, si ce que je raconte, c'est super inquiétant, très très inquiétant, si ça peut être courant, si on peut l'entendre, si...
Ah non, pour moi, c'est plus que très inquiétant.
Si je m'inquiète de trop, parce que moi, depuis ça, j'ai moi-même, je me suis entouré, j'ai une assistante sociale, comme je vous ai dit. J'ai été voir quelqu'un au niveau psychologique qui m'a beaucoup aidé et qui m'a dit à chaque fois, de toute façon c'est simple, si vous faites rien, c'est moi qui fais. Parce que moi j'ai pas de doute, c'est sûr. Donc c'est ce qui m'a motivé aussi de faire le 119. Mais par ailleurs, j'échange avec les équipes qui s'occupent de lui. Quand on me dit, vous êtes trop anxieux, vous êtes anxiogène, vous transmettez votre inquiétude à l'enfant, donc il a tous des troubles comme ça. Je sais plus. Je me dis, je sais plus.
Mais c'est du délire de remettre ça sur votre dos. Je pensais à autre chose aussi. Est-ce qu'il serait possible, que votre ex-femme regarde des vidéos porno et que le petit ait vu ça, qu'il ait eu accès à des images qu'il n'aurait pas dû voir?
C'est ce qu'on fait. Ça a été une hypothèse. Moi, je pense pas. Par contre, il y a eu une proximité, je vous dis, la nuit.
Oui, ça, j'ai compris. Oui, oui.
Je l'ai emmené une fois chez une homéopathe. Il était avec moi un mercredi. Puis, elle l'a ausculté. Et moi, j'étais derrière le paravent, près du bureau. Mais j'entendais. Et donc, elle lui posait des questions et il disait qu'il ne dormait pas beaucoup la nuit parce qu'il fallait que sa maman donne le sein à sa petite sœur. Et donc, il expliquait les scènes et elle lui disait mais le papa, il peut prendre le relais, c'est pas à toi. Mais donc, il disait mais elle n'a pas de papa. Ce médecin m'a dit mais votre fils, il faut faire quelque chose, il est en épuisement, c'est curieux ce qu'il raconte.
Donc ça veut dire qu'il y a plein de professionnels de santé qui ont entendu ce petit garçon dire tout ça et personne ne bouge.
C'est ça. Et moi, c'est ça qui m'a détruit, moi, parce que je comprends pas. Et donc j'ai dit, il a vu il y a 2 ans sur son carnet de santé, il y avait 17 tampons de médecins différents. Donc si vous voulez, ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un suivi qui commence quelque part, la maman, elle bifurque, comme si elle ne voulait pas que cet enfant puisse être entendu ou ausculté. À chaque fois, c'est comme ça. Et là, moi, je me dis, rien que ça, c'est super curieux. Enfin, donc, il n'a pas de suivi. Personne, à part moi, je pense, personne peut constater quoi que ce soit. C'est impossible. Donc, il y a eu des déménagements de la maman, il y a eu des changements de médecin. Il y aurait qu'à l'école, mais à l'école, c'est pareil. Il y a eu de l'encoprésie, de la nurésie, du bégaiement. Il y a eu des maîtresses qui ont dit qu'il avait des problèmes avec son corps, qu'il y a eu des choses, mais ça mène nulle part.
Ça paraît quand même consternant, cette histoire.
Oui, mais moi, je trouve que... Enfin, quand j'entends les statistiques avec tout ce qu'on dit, on dit qu'aujourd'hui, il y a 2 ou 3 enfants par classe qui ont subi des choses sur leur corps. Alors moi, je dis le mien, avec tout ce qu'il a manifesté, il y a probablement 100% de chances qu'il fait partie des 2 ou 3, parce que les autres, j'entends pas parler qu'ils aient tous ces problèmes-là.
Bon, si, une fois de plus, je...
Donc, en fait, l'objet de mon appel, c'est essayer d'évaluer de par moi-même en vous parlant et puis de voir votre réaction. Puis peut-être, je sais pas, les auditeurs, si je suis à ma place. Enfin, si ce que je fais, c'est à sa place et si je suis vraiment anxiogène, si je suis trop anxieux, si je me fais des films, si... Mais ce que je vous dis, c'est la vérité.
Ça, malheureusement, personne ne peut le vérifier. Je veux bien vous croire. Et peu importe, si ce n'est pas la vérité, ça n'a aucun intérêt, de toute façon.
Bah non.
Je ne vois pas très bien l'intérêt pour vous de venir me raconter une histoire pareille
voilà,
ce soir.
Voilà, c'est ça.
Ni pour nous de l'écouter, ça n'aurait pas de sens. Mmh. Enfin, ça serait, si ce n'est de faire le malin, j'en sais rien, avec vos copains, mais je vois pas bien l'intérêt. Ça ne serait pas une preuve d'intelligence, en tout cas, ça c'est sûr. Et si tout ça est vrai et qu'il ne se passe rien, c'est dramatique.
C'est ça.
Parce qu'il est évident que ce petit garçon, ça vous met un peu quand on dit ce petit garçon, parce que 10-11 ans, c'est plus un petit garçon.
Oui, il va avoir 10 ans, ouais.
C'est un garçon maintenant, 10 ans.
Ouais, c'est ça.
On ne se comporte plus avec lui comme avec un enfant de 3-4 ans. Quoi. Il peut s'exprimer, il peut dire les choses, il peut témoigner aussi. Quoi.
Alors jusqu'à maintenant, il y a donc un juge pour enfants et qui était plutôt dans la lignée de douter du papa qui était... Et là, donc on est passé il n'y a pas longtemps. Et là, il commence à rééquilibrer les choses. Donc, il parle d'une relation toxique des parents, de deux parents qui n'arrivent pas à faire valoir leur parentalité. Et il dit que la prochaine fois, si on en est toujours au même point, l'enfant sera placé dans une famille d'accueil. Et là, il y a ça aussi qui me dit...
Je comprends que ça vous bloque, ça.
Ouais. Simplement... Enfin, ça me bloque. Je me pose des questions. Je me dis, est-ce que ça ne peut pas être un déclencheur pour lui de se rendre compte quel est son milieu de vie, ce qui s'y passe, et de lui-même être objectif. Mais je me dis, il peut le vivre comme un abandon, parce que moi, il m'écrit une fois par mois, « Papa, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Je sais que je peux compter sur toi. Papa, je t'aime. Papa, papa, papa. »
Mais vous l'avez à quel rythme?
C'est une garde élargie, donc c'est un week-end sur deux plus un mercredi sur deux.
Et pourquoi est-ce qu'il vous écrit alors?
Je ne sais pas. C'est quand il partage du temps avec moi, il lit beaucoup, il écrit beaucoup, et il me fait des dessins, et puis il me rédige tout ça. Donc j'ai un classeur où j'ai gardé tout, et il y a des jours quand ça m'arrive de regarder, je me dis, mais on a l'impression d'un adulte à qui on a rendu des services, qui a eu des problèmes dans sa vie et qui vous témoigne de sa reconnaissance. Et c'est très curieux.
En tout cas, il me semble moi, qu'il y a deux histoires dans votre histoire. Effectivement, les conflits entre parents font que les éducateurs et la justice, ils sont tous extrêmement prudents et c'est normal. Parce que chacun peut aussi tirer la couverture à lui, inventer des histoires, des choses comme ça. Ça, c'est, je peux comprendre la frilosité, si vous voulez, l'attentisme. Mais quand on a un petit garçon qui dessine ce que vous me dites, qui mentionne des scènes comme celles qu'il semble avoir mentionnées, les choses sont claires. Vraiment, il me semble que les choses sont très claires. C'est pas du tout une question de conflit entre les parents, là. C'est qu'il y a un vrai problème.
Et puis, si j'avais été seul, il y a d'autres personnes de mon entourage qui ont assisté à des scènes, à toutes ces scènes-là. Ça a duré à peu près une année. Donc, quand j'étais tout seul avec lui, il y a des fois c'était compliqué parce que je me disais qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je lui dis, Et quand vous êtes pas seul, vous vous dites voilà, j'ai pas rêvé là, c'est sûr, parce que vous pouvez en parler après avec les personnes et on me disait mais là non, mais c'est super inquiétant. Enfin,
dites-lui surtout qu'il a le droit aussi de s'exprimer et de dire de dire non à sa mère, de dire ça me gêne quand tu fais ça, je n'accepte pas ça.
Ouais, il le sait, ouais.
C'est important ça.
Ouais.
Et pour répondre à votre question le plus simplement du monde, si tout ça est vrai, oui, c'est grave. Évidemment, c'est grave.
Moi aussi, je pense que c'est super grave, mais c'est pas des faits courants. Enfin, c'est souvent dans l'autre sens. On entend peut-être plutôt des papas qui pourraient, ou des beaux papas qui pourraient abuser de jeunes filles. Mais là, un petit garçon, enfin, c'est compliqué quand même.
J'ai déjà eu un témoignage d'un papa dans votre situation il y a quelques temps, il y a 2 ans de ça, je crois. Malheureusement, c'est oui, bien sûr, c'est moins fréquent, mais ça arrive aussi.
Et bon, moi, ce qui du coup, je connais bien la maman et je sais qu'il y a des éléments de sa personnalité qui favoriseraient aussi certains
doutes. C'est ce qu'on s'est dit, c'est une évidence aussi. Hein.
Ouais.
C'est une évidence.
Bon, je ne peux pas tout vous dire, mais il y a des éléments vraiment frappants et marquants et c'est un peu compliqué quand même.
Bon, j'entends que vous ne pouvez pas tout dire. En plus, l'émission va se terminer, Lucas.
D'accord.
Enfin, je ne peux pas vous dire autre chose que oui, c'est grave.
Et
votre rôle de père, c'est de protéger ce petit garçon.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Et de faire bouger les choses un peu plus sévèrement que ce qui se passe en ce moment, parce qu'il ne se passe rien, visiblement.
Mais oui, mais c'est difficile de trouver des interlocuteurs, je ne sais plus où aller, je ne sais plus comment faire, là. Je ne sais plus.
Est-ce que dans l'histoire, vous avez déjà tenté de prendre un avocat, par exemple, quelqu'un qui pourrait vous aider sur le plan juridique?
Bah oui, mais il se passe rien. Oui. J'ai fait ce qu'il fallait.
Voilà,
mais
vous êtes tombé vraiment sur des mauvaises personnes à chaque fois. C'est quand même à ce point-là, c'en est un peu étonnant quand même.
J'ai même changé. J'ai changé et je croyais que non. C'est là, je vois plus. Moi, je vois pas ce qu'il faut faire. Je comprends pas. Je vois pas du tout.
Je suis désolée, Lucas. L'émission va se terminer. Ça va être difficile. On pourrait parler très longtemps de cette histoire. C'est toujours compliqué d'avoir aussi une seule version des choses, évidemment. Vous comprenez bien que pour moi, c'est pas évident.
Mais bien sûr, je comprends.
Mais oui, c'est grave ce qui se passe. Et soyez extrêmement vigilants pour la suite.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, Lucas.
Allez, au revoir.
Au revoir. Notre émission se termine, il est déjà presque 1h du matin. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos témoignages. Merci pour votre présence. On se retrouve bien sûr demain soir à partir de 23h. Et je vous quitte avec la phrase, le mot du jour. Ça, c'est comme d'habitude, la vie nous donne toujours une seconde chance. Cette seconde chance, elle s'appelle simplement demain. Passez une bonne nuit et à demain justement.